quand les orages se rapprochent, que les éclairs craquent à l'horizon, que le vent se rafraîchit, mais que finalement le ciel s'éclaircit. Quelle est votre réaction? Quelle est votre réaction? Alors actuellement, avec la sécheresse en Provence, on est plutôt en train de se dire « Oh zut, la pluie est pas tombée chez nous ». Mais en temps normal, et encore plus quand on serait en pleine nature, quand on serait en pleine montagne, qu'est-ce qu'on est censé se dire? Ouf! Ouf, la pluie n'est pas tombée, l'orage n'a pas craqué. C'est tombé à gauche, à droite, devant, derrière, mais ouf, on est passé entre les gouttes. Ce ouf, c'est un peu le sentiment qu'a dû avoir Israël après le premier chapitre du prophète Amos que nous avons lu dimanche dernier. Avec Robert Newton, pour ceux qui n'étaient pas là, soit ça fera un rappel pour ceux qui étaient là et une petite découverte pour les autres. Mais Amos, c'est un petit prophète de l'Ancien Testament, moins 760 avant Jésus-Christ, un berger qui monte, qui quitte Juda et qui monte en Israël pour aller proclamer le jugement de Dieu sur Damas, sur Gaza, sur Tyr, sur Édom, sur Ammon, sur Moab, de partout. Et les Israélites ont dû se dire « Ouf, on est passé entre les gouttes. Amos nous a oubliés. Ouf, le jugement de Dieu est tombé autour de nous, mais pas sur nous. » Et peut-être que le peuple a commencé à ne plus tout à fait écouter Amos. C'est bon, c'est fini. Mais voilà que ce dernier prend la parole et pour adresser, c'est des chapitres qu'on va voir de 2 à 6, que Amos prend la parole finalement contre Israël et se lance dans 5 chapitres au sujet des Israélites. Alors les autres, ils avaient droit à 5 versets chacun, et pour les Israélites, c'est 5 chapitres. Aïe, ça commence mal. On dirait un enfant, vous voyez, quand il y a un parent, quand il y a un maître ou un professeur qui gronde un groupe d'enfants. On dirait un enfant qui pensait pouvoir échapper à la réprimande quand tous les copains un par un sont grondés, et lui c'est le dernier, il se dit c'est bon, je suis passé entre les gouttes, c'est bon, c'est gagné. Et là finalement, il pensait que c'était fini, et le parent ou le professeur prend sa respiration et se tourne vers lui. Il pensait que c'était fini, et ben non. Et là, Amos, c'est pareil. Chapitre 1, il s'adresse aux nations. Chapitre 2, Amos prend sa respiration et se lance dans 5 chapitres pour avertir, condamner, confronter Israël. Mais à l'inverse des autres peuples, Amos va aussi encourager, exhorter et proposer une issue à Israël. C'est le privilège de tout peuple qui appartient à Dieu. Alors nous allons survoler ce matin, on ne va pas lire Amos 2 à 6 en entier, on va survoler et découvrir ensemble le message d'Amos pour Israël et par ricochet pour nous. Ce message qui est en 5 mots, et ça sera mes 5 parties, 5 mots, consternation, correction, illusion, conversion et transformation. Et je vous propose de commencer par le premier mot. Consternation, c'est le mot qui convient devant le triste état dans lequel est le peuple d'Israël après des années et des années de règne avec un roi qui s'appelle Jéroboam II, un des pires rois. Est-ce que vous vous en souvenez ce que Amos avait dénoncé pour les nations dans le chapitre 1? Quel type de péché il avait dénoncé dans le chapitre 1 aux autres nations? Pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez, il avait parlé de trahison, de violence, d'esclavage, de guerre. Est-ce que c'est ça que Amos va dénoncer envers Israël? Non, Amos, inspiré par Dieu, choisit de dénoncer quelque chose d'autre envers son peuple. Quelque chose peut-être de moins visible, quelque chose on pourrait croire de moins important, et pourtant, Amos va le dénoncer violemment. Écoutez ces quelques versets, donc on va balayer quelques passages dans Amos, et je commence avec Amos 2 à partir du verset 7. Amos 2, verset 7. Écoutez ce que Amos décide de dénoncer. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des faibles et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père s'unissent à la même fille afin de déshonorer mon saint nom. Amos 5, verset 11. Vous avez exploité le faible. Vous avez prélevé du blé sur sa récolte. Vous avez construit des maisons en pierre de taille, mais vous les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. En effet, je le sais, vos crimes sont nombreux et vos péchés multiples. Vous opprimez le juste, vous recevez des pots de vin et vous violez le droit des pauvres à l'entrée de la porte de la ville. Qu'est-ce que Amos choisit de dénoncer ? L'injustice. Et pour être précis, l'injustice sociale qui règne en Israël. Le pays est prospère, le pays est riche, le pays est en paix, mais au prix d'injustice, d'abus et de pots de vin et de corruption. Les plus pauvres sont méprisés et les plus faibles sont accablés. Et si c'était la manière dont un pays prenait soin des plus pauvres qu'on pouvait deviner la bonne santé d'un pays ? Non pas avec le PIB. Vous savez ce que c'est, les enfants, le PIB ? Rémi, t'as commencé à lui voir ça, quand même. Le PIB, produit intérieur brut, c'est des histoires d'euros, de sous. Et à partir de ça, on peut comparer les pays. Et si on imaginait que c'était plus le PIB, mais je sais pas, le produit intérieur de solidarité et de générosité, ou je sais pas quoi. Si c'était sur un autre critère que les euros, qu'on pouvait juger de la santé d'un pays. En tout cas, Israël, à ce moment-là, en moins 760, serait bien mal parti sur ce critère. Amos, il est consterné. Amos, et Dieu est accablé, affligé, contrarié par tout cela. Ça sert à rien. Ça sert à rien de proclamer son identité de peuple de Dieu. Ça sert à rien de remercier Dieu pour la prospérité et l'absence de guerre avec les voisins. Si en parallèle, le pauvre est méprisé et si le faible est accablé. Tout peuple de Dieu est censé représenter Dieu, témoigner de qui est Dieu, transpirer sa justice, sa paix, être le reflet de sa bonté et de sa générosité. Cela s'applique à Israël à l'époque, ça s'applique également à l'Église aujourd'hui. Est-ce que Amos serait consterné par nos propres sociétés s'il venait aujourd'hui? Qu'est-ce que penserait Amos aujourd'hui? Devant notre société, devant notre pays, devant notre Église, devant nous? Une chose est sûre, les amis, si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on ? Mais à l'inverse des autres nations, Israël a un privilège immense. C'est celui de ne pas subir le jugement de Dieu de suite, mais c'est d'avoir le droit à des avertissements, à des corrections, et c'est notre second mot, correction. C'est notre second mot, correction. Amos 3, verset 2, Dieu dit à travers Amos, « Je vous ai choisi, vous seul parmi les familles de la terre, c'est pourquoi donc j'interviendrai pour vous, pour les péchés, pour tous vos péchés. » Dieu décide d'intervenir. Il n'abandonne pas son peuple à ses péchés. Le peuple de Dieu n'est pas un peuple comme les autres. Il appartient à Dieu et Dieu, en retour, a des attentes envers lui. Voilà pourquoi Dieu a le privilège, le peuple d'Israël a le privilège d'être corrigé et d'être averti de ses bêtises. Louis Chevassu, ici présent, désolé, ça tombe sur toi, Louis appartient à la famille Chevassu. Et ses parents, en tout cas son papa, est présent ici aujourd'hui. Si Louis est en train de faire une grosse bêtise, c'est une hypothèse.
Ça n'arrive jamais, en vrai.
Ça n'arrive jamais. Si Louis est en train de faire une grosse bêtise, qui parmi nous va réagir le plus vite et le premier? Qui parmi nous va réagir en priorité? Jean, c'est censé être toi. Et Louis, c'est ton privilège d'avoir des parents qui ne vont pas te laisser faire des bêtises. C'est ton privilège d'avoir des parents qui vont t'avertir et qui vont te corriger pour pas t'enfoncer dans tes bêtises. Hébreux 12, verset 6, le Seigneur corrige celui qu'il aime. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que le père ne corrige pas? C'est pour ça que j'ai fait que des filles. Quel est le fils que le père ne corrige pas? Devant une situation concernante, Israël a donc le privilège d'avoir été corrigé, d'avoir été averti. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a marché? Lisez avec moi Amos 4, verset 6. On va voir si les corrections, si les avertissements ont fonctionné. Amos 4, verset 6. « Moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans vos demeures. Mais malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, déclare l'Éternel. Je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y a encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville, mais je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, déclare l'Éternel. Verset 10, j'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée, j'ai laissé prendre vos chevaux. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, déclare l'Éternel. Verset 11, je vous ai bouleversé comme lors de la catastrophe dont Dieu a frappé Sodome et Gomorre. Vous avez été pareil à un bout de bois arraché à l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Que de corrections, que d'avertissements de la part de Dieu envers son peuple. Si seulement Dieu, si seulement Israël avait écouté ces avertissements. Lors de nos vacances en Suisse, il y a 3 semaines, plusieurs voyants d'avertissement se sont allumés sur le tableau de bord, dans la voiture. Ah, un premier voyant qui s'allume. Vous êtes en vacances, il fait beau. Pas grave. C'est un voyant, une petite lumière, c'est pas grave. On continue, chérie. C'est les vacances, continuons. Un deuxième voyant qui s'allume. Qu'est-ce que j'ai fait? Pensez-vous qu'on a écouté? On était en vacances. Fallait continuer. Et on continue. Bon, troisième voyant qui s'allume. Il a fallu se rendre à l'évidence. Ça sentait pas bon. Et on est chez le garagiste avant-hier et une belle facture qui nous attend en perspective. Si seulement nous avions entendu les premiers avertissements. Les premiers voyants. Si seulement Israël avait réagi dès le premier avertissement. Sécheresse, maladie, peste, guerre. Si seulement nous, en tant que chrétiens, nous étions capables d'être sensibles aux avertissements et aux corrections de notre Père dès la première fois. Supporter la correction, nous dit la parole, c'est comme des fils, comme des filles, que Dieu vous traite. Si seulement. Mais non, malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Mais non, ce n'est pas ainsi qu'Israël a réagi. On en arrive à notre troisième mot, le mot illusion. Et pour être précis, l'illusion de la religion, pour s'en sortir. L'illusion de la pratique religieuse pour masquer ses péchés, pour masquer ses erreurs, pour masquer ses faiblesses. Alors en Israël, c'était pas les temples et les fêtes religieuses qui manquaient. Alors que faire, les amis? Hop! Un petit détour au temple, un petit sacrifice par ici, un petit cantique par là, et ça c'est bon, le tour est joué. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu? Il suffit de faire un petit cantique et de faire un petit détour le dimanche matin, et hop, c'est fini? Écoutez, la violence des paroles d'Amos et de Dieu envers son peuple hypocrite, avec cette illusion de la religion. Amos 4, verset 4. Amos 4, verset 4. Allez-y, allez à Bethel, où il y avait un temple, et péchez. Allez à Gilgal, et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin, vos dîmes tous les trois jours. Offrez vos sacrifices de reconnaissance avec du levain. Allez-y, proclamez, annoncez vos offrandes volontaires. C'est en effet ça que vous aimez, les Israélites, déclare le Seigneur l'Éternel. Amos, chapitre 5, verset 21. Je déteste et je méprise vos fêtes. Je ne peux pas sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, j'y prends aucun plaisir. Les veaux engraissés que vous m'offrez en sacrifice de communion, je ne les regarde même pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas tes luttes, ta guitare ou ton piano. Voilà comment croyaient s'en sortir les Israélites. Hop ! Un petit coup de religion et un petit cantique et Dieu sera content. Qu'est-ce que c'est la religion ? La pratique religieuse, c'est une illusion qui nous fait croire que Dieu est apaisé, qui nous fait croire que c'est bon, que Dieu est satisfait. Cette illusion, malheureusement, elle fonctionnait déjà à l'époque et elle a traversé sans trop de difficultés les siècles. On pense aux indulgences réclamées par l'Église catholique au Moyen-Âge. Donnez un peu de sous pour le Vatican et hop, vous serez pardonné. On pense aux différents pèlerinages à faire à Lourdes, à la Mecque ou ailleurs. Nous pensons aux offrandes à apporter méticuleusement aux dieux, que ça soit à Lhasa ou à Kinshasa. Peu importe, Dieu s'est satisfait. La religion est une illusion qui fait croire à l'homme que c'est tout bon. Mais regardez, on l'a lu, la violence des propos de Dieu envers son propre peuple quand celui-ci chante un beau cantique mais méprise le pauvre à côté de ça. Je déteste vos fêtes. Je méprise vos fêtes, vos cultes, pour le dire dans nos mots. Waouh ! Imaginons que Dieu dit ça. Quand vous vous rassemblez ici, je peux pas le sentir. Waouh ! Est-ce que cette illusion nous guette ici, à Cavaillon ? Cette illusion que la pratique religieuse pourrait suffire. Nous affirmons dimanche après dimanche la justice et l'amour de Dieu. Semaine après semaine, nous affirmons la suprématie de l'œuvre de Christ, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection. Œuvre par laquelle nous pouvons être délivrés et lavés de nos péchés. Alors j'espère que personne d'entre nous est tombé dans cette illusion. En tout cas, c'est pas ce que nous le souhaitons. J'espère que personne d'entre nous ne croit que sa pratique religieuse pourrait l'aider à être un peu plus juste devant Dieu. En tout cas, c'est ce qu'on rabâche dimanche après dimanche. Si cette semaine vous avez chuté, si cette semaine vous avez péché, si cette semaine vous vous êtes laissé submerger par votre colère, si cette semaine, vous avez méprisé un plus faible que vous, ce n'est pas votre présence ici et votre belle voix pendant les cantiques qui peut gommer et qui peut effacer ce qui s'est passé cette semaine. Ça ne sert à rien de venir ici. Car la religion est une illusion, mais bonne nouvelle, il y a une solution pour les Israélites et donc pour nous, pour tout être humain, c'est le prochain mot. Après la consternation, après la correction, après l'illusion, place à la possibilité de la conversion, de la repentance. Est-ce que les enfants, vous savez ce que c'est en ski une conversion? Vous l'avez déjà fait? C'est faire, en ski de piste, on le fait moins en moins. Mais c'est vraiment faire demi-tour sur place. J'allais dans cette direction-là, je suis coincé, je peux pas faire de virage, donc je fais hop, je suis un peu guignol avec mes skis, hop, et je pars dans l'autre sens. Je fais demi-tour. Faire demi-tour dans la foi et la repentance, c'est la seule recette qui fonctionne pour se saisir du pardon de Dieu. C'est la seule recette. Alors, Amos continue et proclame une porte de secours pour son propre peuple. Amos 5, verset 4. Amos 5, verset 5. En effet, voici ce que l'Éternel dit à la communauté d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas à Bethel, au temple là-bas. Ne cherchez pas à Gilgal. Ne passez pas à Beersheba. Gilgal sera exilé et Bethel deviendra une ruine. Non. Cherchez-moi et vous vivrez. C'est tout simple. Autrement dit, arrêtez de chercher au mauvais endroit. Arrêtez de faire la tournée des temples et des cultes et revenez simplement à moi. Cherchez-moi et vous vivrez. Si je joue une partie de cache-cache avec mes filles dans la maison et que je leur dis que je suis caché dans la salle de bain, est-ce qu'elles vont aller chercher dans le cellier? Est-ce qu'elles vont aller chercher dans le jardin? Non. Si tu sais où est la solution, tu vas pas t'amuser à perdre du temps à faire toutes les pièces de la maison si tu sais que je suis dans la salle de bain. Il en est de même, les amis. Ne perdons pas de temps, ne faisons pas de détours. Allons toujours vers Dieu et vers Dieu seul. Rapprochons-nous de lui, c'est la seule solution. Stoppons nos illusions, mais tournons-nous vers Dieu. Pourquoi? Parce que la condamnation que nous méritions a été endurée par Christ, mort à la croix, et tout est accompli, tout est payé. Alors nous, il ne nous reste plus qu'à faire demi-tour, un changement de direction pour revenir dans la foi et la repentance vers notre Dieu Sauveur. Une seule solution. Et un mot ce matin pour nos jeunes qui sont avec nous, et pour les moins jeunes, pour tous ceux qui ne se seraient pas également tournés encore pleinement vers Dieu. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Ne repoussez pas à plus tard ce qui peut être fait aujourd'hui. Ne vous dites pas que vous avez le temps, ne cherchez pas à visiter et expérimenter toutes les possibilités ici-bas. Il n'y a qu'une seule solution, celle de se tourner vers Dieu pour vivre véritablement. Et tous ceux qui se sont convertis sur le tard diront aux plus jeunes à quel point c'est un immense privilège de pouvoir bâtir sa vie dès son plus jeune âge sur Dieu. Pas besoin de faire comme le fils prodigue qui a voulu voir ce que ça faisait le fait d'être loin de Dieu pour voir si c'était cool. C'est pas cool d'être loin de Dieu. Pas besoin d'être comme l'Ecclésiaste qui a voulu goûter à tous les plaisirs de la vie avant de se rendre compte que tout était vanité et que seul le plaisir en Dieu importait. Ne perdez pas votre temps. Cherchez-moi et vous vivrez, dit Dieu. Perdez pas votre temps, les jeunes. Que personne d'entre nous ne perde du temps. Et on en arrive à notre dernier mot. On en arrive à notre dernier mot. Si la religion n'est qu'une illusion, mais que la seule conversion est la seule solution, ça rime, est-ce pour autant la fin de l'histoire? Est-ce que l'œuvre de Dieu s'arrête ici? Vous l'aurez compris, il y a un cinquième point, donc il y a la réponse de ma question. Notre dernier et cinquième mot est le suivant. Transformation. Transformation. Voilà ce à quoi encourage Amos le peuple une fois qu'il sera revenu à Dieu. Et je lis quelques versets dans le chapitre 5, versets 5-14. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous vivez. Et ainsi l'Éternel, le Dieu de l'univers, sera avec vous, comme vous le dites. Détestez le mal, aimez le bien, faites régner la justice à la porte de la ville. Peut-être que l'Éternel, le Dieu de l'univers, fera grâce au reste de Jacob. Amos 5, verset 24. Que le droit jaillisse comme un cours d'eau, et que la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. À quoi bon revenir à Dieu? À quoi bon se convertir si ce n'est pas pour avoir une vie transformée? À quoi bon se tourner vers Dieu si ce n'est pas pour porter du fruit? Si tu recherches Dieu, ben alors recherche le bien. Ça va de soi. Recherche, tu veux rechercher Dieu? Recherche alors également le bien. Ça va avec. Dieu prend plaisir dans le bien, car il est un Dieu de bonté. Pareil, si tu recherches Dieu, recherche alors la justice. Ça va de pair. Dieu est un Dieu de justice qui prend plaisir en la justice. Alors si tu recherches Dieu, recherche également la justice. La vie chrétienne ne se résume pas à la conversion, ne se résume pas au baptême, Charles, mais elle commence à ce moment-là. La vie chrétienne est une vie de transformation. Matthieu 5, Jésus nous avait dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes aussi la lumière du monde. Parce que si on met une lumière, c'est pour la cacher? Non. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Ces paroles de Jésus dans le Sermon sur la montagne nous invitent à refléter, à témoigner par nos vies transformées de qui est Dieu. Voilà à quoi ressemble la vie chrétienne. Et non pas des pratiques religieuses le mardi, le dimanche, le jeudi. Et ces pratiques religieuses, lorsqu'elles sont là pour essayer de masquer, de faire semblant, Jésus les dénonce très très fortement également dans la suite de son Sermon sur la montagne. Jésus n'y va pas par les, par le coin de la cuillère, c'est ça qu'on dit? Non. Le dos de la cuillère. Est-ce que vous connaissez une autre personne dans la Bible qui dénonce fortement l'injustice sociale et l'hypocrisie religieuse? Est-ce que vous connaissez une autre personne dans la Bible, comme Amos, qui dénonce, à part Jésus, qui dénonce un peu la même chose, l'injustice sociale et l'hypocrisie religieuse? Alors j'ai entendu Jésus, oui, effectivement. Jean-Baptiste. Élie. T'as dit qui, Kevin?
Jean-Baptiste.
Alors un petit indice pour les nombreuses personnes qui suivent le plan de lecture du mois. Il est parmi là. Hébreux, Jacques, Galates, Ésaïe. Et la bonne réponse, c'est Jacques. Gagné. Jacques. On retrouve dans son épître les mêmes avertissements sur la vanité d'une pratique religieuse sans piété ni justice sociale. Preuve que si Amos était en moins 760, Jacques au 1er siècle après Jésus-Christ est en train de faire les mêmes dénonciations, preuve qu'au 21e siècle, probablement que ça nous concerne également. Écoutez Jacques à partir du verset chapitre 1, verset 27. Si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. Boum. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse, et de ne pas se laisser souiller par le monde. Jacques 2, verset 15, plus loin. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous se contente de dire « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous. » À quoi cela sert-il? À rien. Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Jacques n'y va pas non plus par par le dos de la cuillère, comme Amos. Jacques est un peu l'Amos de l'Église primitive et dénonce les mêmes choses. Je ne sais pas qui est aujourd'hui Amos au XXIe siècle, mais en tout cas, sachons entendre la parole de Dieu qui nous invite à avoir des vies transformées. Et comment cela se verra que nos vies sont transformées? Entre autres, par la manière dont nous prendrons soin des plus faibles et dont nous aimerons nos prochains. C'est ce que nous avons chanté, et vous verrez, c'est ainsi que vous verrez, que le monde verra que nous sommes ses disciples. Concluons, les amis, concluons et résumons. L'orage était tombé sur Damas, sur Gaza, sur Tyr, sur Édom, sur Moab, etc. Mais l'orage a fini également aussi par tomber sur Israël. Et de quelle manière? Non pas 5 versets, mais 5 chapitres. Envers son peuple, Dieu attend qu'il lui ressemble, qu'il le reflète parmi les nations, qu'il soit la lumière. Et la justice sociale, la solidarité, sont des choses que Dieu attend de son peuple en particulier. On aurait pu mentionner aussi Exode 20 avec les 10 commandements. Mais le privilège du peuple de Dieu, c'est d'avoir un Dieu qui s'intéresse à lui, qui veut le meilleur pour lui. Et par conséquence, son privilège, aujourd'hui comme à l'époque, comme pour Louis Chevassu, c'est parfois d'être averti, corrigé par son propre père. C'est un privilège. C'est un privilège d'avoir un père, un Dieu, qui s'intéresse et qui nous avertit, qui ne nous laisse pas nous éloigner de lui comme ça. Mais le plus grand donc des privilèges du peuple de Dieu, c'est de pouvoir, autant de fois qu'il le faudra, se tourner vers Dieu, revenir, faire demi-tour vers ce Dieu, ce de grâce qui permet aux pécheurs repentants de pouvoir saisir le pardon offert en Jésus-Christ. Et Dieu, dans sa grâce, offre ce privilège à tout le monde, à tout être humain, peu importe son histoire, peu importe son origine, peu importe sa nationalité, peu importe. Et le privilège, enfin, de tout chrétien, de pouvoir ensuite être transformé, de pouvoir porter du fruit, de pouvoir refléter pleinement son Dieu, un Dieu de grâce, d'amour et de bonté. Nous sommes privilégiés. Vous êtes privilégiés. Que nos vies puissent être transformées d'autant plus, et cela, dès aujourd'hui. Amen. Et je vous invite à la prière. Éternel, merci parce que ta loi nous rappelle à quel point tu es un Dieu juste, un Dieu bon et un Dieu qui se plaît dans la justice et dans la générosité. Seigneur, voilà, de la même manière que face aux 10 commandements, on se sent aussi incapable de les faire parfaitement, Seigneur, nous confessons également notre incapacité à être toujours lumière et toujours sel dans tous les domaines de notre vie, en particulier celui des plus pauvres et des plus faibles. Seigneur, face à cela, protège-nous des illusions, protège-nous de croire que c'est bon, protège-nous de l'illusion de croire qu'il suffit de faire un petit truc pour compenser ni vu ni connu. Seigneur, face à cela, merci pour cette solution que tu nous proposes, merci parce qu'on peut faire demi-tour vers toi et qu'on peut saisir par la foi, par la repentance, ce merveilleux pardon que tu nous as acquis en Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu veux de nous des vies transformées, des vies qui te reflètent, des vies qui portent du fruit, des vies qui soient à ta gloire et où on puisse être lumière du monde et qu'ainsi les gens, nous voyant, Seigneur, célèbrent la gloire de notre Père Céleste, ta gloire. Seigneur, viens à notre secours, fortifie-nous, équipe-nous, bénis-nous. Amen.